dans l'Express.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour. À l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome, Accent d'Europe s'intéresse aujourd'hui aux 45 000 fonctionnaires européens. Reportage au Collège d'Europe de Natoline en Pologne, où sont formés un certain nombre d'entre eux. Emeline Rochdy nous dressera également un portrait collectif de ces fonctionnaires souvent décriés et qui jouissent d'avantages propres à leurs fonctions. Ils bénéficiaient d'un régime de faveur sous l'ère soviétique. Aujourd'hui, les 400 aveugles de Tbilissi, en Géorgie, vivent dans la plus grande misère. Reportage. De l'influence du rock sur les opposants au communisme, le metteur en scène d'origine tchèque Tom Stoppard renoue avec son pays natal au théâtre. Portrait. Enfin, la solitude des Moldaves après l'entrée de la Roumanie dans l'Union. Il leur faut désormais un visa pour rendre visite à leurs voisins ou à leur famille. À suivre dans notre carnet de voyage. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale que le premier organisme de formation à caractère européen a vu le jour en Europe. 8 ans avant la signature du traité de Rome, le Collège d'Europe de Bruges, en Belgique. À l'époque, le but était de former des Européens compétents pour s'occuper de la réunification de l'Europe. Après la chute du communisme et avec la perspective de l'adhésion des pays de l'Est, ce collège a ouvert une antenne à Varsovie. Cela fait déjà 15 ans qu'il accueille les futurs fonctionnaires européens à Natoline, faubourg résidentiel de la capitale polonaise. Reportage d'Amélie Poinceau.
Natoline, château du XVIIIe siècle, investi par le Collège d'Europe et son campus depuis 1992. Ici, on parle français et anglais, mais les étudiants viennent des quatre coins de l'Europe, voire de plus loin, tout comme les professeurs.
Nous avions toujours fait attention d'avoir un corps professoral très multinational, ce qui veut dire multiculturel, et le caractère multinational ou multiculturel du corps enseignant, c'est très important parce que les étudiants s'habituent aux différents modes de penser, de travailler de nos pays.
Robert Picht, vice-recteur du Collège d'Europe.
Il y a 50 ans, il n'y avait pas de formation pour fonctionnaires européens, mais il y avait les formations nationales où, par exemple, si vous prenez le droit, il y a que à peu près 15 ans que le droit européen est vraiment enseigné dans les universités européennes. Avant, ça n'existe presque pas, donc le Collège d'Europe avait un peu le monopole d'enseigner vraiment le droit européen et ses conséquences.
Natoline propose donc une année de formation post-universitaire pour pouvoir ensuite passer les concours de la Commission européenne. Au programme du droit, mais aussi de l'économie, de l'histoire ou encore de la sociologie. Pour Georges Ranqui, franco-polonais qui enseigne la politique régionale et la politique agricole, le caractère interdisciplinaire de ce cursus est une nécessité.
Cette caractéristique d'interdisciplinarité est une caractéristique importante et je crois essentielle pour un fonctionnaire européen. Il doit comprendre, si vous voulez, la philosophie du droit fiscal de plusieurs pays au moins.
Ce jour-là, une soirée ukrainienne anime le campus car deux élèves originaires de Kiev font partie des 120 étudiants de la promotion. Elles trouveront sans trop de difficultés un espagnol pour les accompagner à la guitare et feront découvrir les spécialités culinaires de leur pays à leurs camarades. Maria, qui organise la soirée, est venue se former à Natoline pour aider ensuite à l'intégration de son pays dans l'Union. Pour Maria, comme pour les autres étudiants, les séminaires de négociation sont particulièrement instructifs. Ce sont des exercices de simulation de discussions qui se tiennent à Bruxelles, comme l'explique Jean, un élève français.
On donne un projet de directive présenté par la commission et au sein du conseil ou au sein de tel groupe de travail, tu vas représenter tel état avec un mandat et donc tu dois absolument faire en sorte que les souhaits de ton chef soient réalisés.
Mais l'enseignement de Natoline en réajustement permanent depuis sa création ne suffit pas pour guérir les désillusions de certains. Jean, lui, ne s'est pas remis du non français au référendum sur la Constitution.
Après un très fort engagement dans le référendum, aujourd'hui, sur le campus, en fait, on est tous un peu dépités. C'est très, en fait, euro-réaliste. Donc l'attitude maintenant, alors que je suis plutôt toujours tourné vers l'action publique, là maintenant, c'est chacun pour sa peau, quoi.
50 ans après sa fondation, l'Union européenne ne semble plus susciter les mêmes idéaux qu'après la guerre. même chez ses plus fervents partisans.
Recruté sur concours à la sortie du Collège de l'Europe, que ce soit en Belgique ou en Pologne, mais aussi après des études aux quatre coins de l'Union, les fonctionnaires européens sont aujourd'hui 45 000. Ils sont interprètes, traducteurs, juristes, vétérinaires, secrétaires, documentalistes, etc. La moitié travaille dans les bureaux de la Commission européenne, principalement à Bruxelles. Une fonction publique aussi prestigieuse que décriée, Emeline Roche.
C'est quand ils désertent leur bureau qu'on se rend compte à quel point ils sont là. Au milieu de l'été, quand l'UE se met en congé, cela fait tout d'un coup un vide dans Bruxelles. Pendant 24 jours, les fonctionnaires européens partent retrouver les saveurs et les accents de leur pays d'origine. En fonction des kilomètres qu'ils ont à parcourir, leur employeur, la Commission, leur accorde de 1 à 6 jours de plus. Le reste de l'année, ces déracinés se consolent avec une indemnité de dépaysement et se mêlent très peu à la population belge. Des Bruxellois qui leur reprochent souvent de rester entre eux. Les gens de l'UE, comme ils disent, décompressent dans leur propre club de sport. Ils déposent chaque matin leurs enfants dans une des structures d'accueil gérées par la Commission, une progéniture inscrite la plupart du temps dans une des 14 écoles européennes qui les forment de la maternelle jusqu'au bac. Côté protection sociale, les fonctionnaires européens cotisent à leur propre caisse d'assurance maladie et de retraite. Ils disposent ainsi d'une bonne couverture qui prend notamment en charge la totalité des soins en cas d'affection grave et qui rembourse même, presque entièrement, l'achat de 6 pilules de Viagra par mois. Une dizaine d'affiliés sont concernés. Les fonctionnaires européens peuvent d'ailleurs travailler jusqu'à 67 ans tout en optant pour le temps partiel à partir de 55 ans. Un temps plein à la Commission, c'est 37h30 par semaine. Autre particularisme de la fonction publique européenne, tout un symbole pour ces hommes et femmes qui sont chacun un rouage de la machine communautaire, ce sont les seuls citoyens à s'acquitter d'un impôt européen à peu près au même niveau que l'impôt sur le revenu, mais directement prélevé à la source.
Travaillons actuellement pour l'Europe.
Netavsa da riskidevtsa udzirodurji khalasi sored iseti rogorts shenia.
Parce qu'ils étaient l'objet d'une attention particulière sous le régime soviétique, les aveugles de Tbilissi en Géorgie vivent aujourd'hui très difficilement l'âpreté du système capitaliste. C'est dès les années 20 en Géorgie que sont créés les premiers ateliers industriels spécifiquement destinés à une main-d'œuvre d'invalides et en particulier ces aveugles. Le premier atelier ouvre dans une lointaine périphérie de Tbilissi, Ponitchala, isolée du reste de la ville par le fleuve qui la traverse. Au fur et à mesure de l'industrie, les ateliers se multiplient et les aveugles sont regroupés dans ce quartier qui reste encore aujourd'hui connu sous le nom de Cité des Aveugles. Mais aujourd'hui, les ateliers ont fermé et les quelques 400 aveugles du quartier sont restés dans la même situation de misère que le reste de la population, leur handicap en plus. C'est un reportage d'Emmanuel Guimain-Deschamps.
Au premier abord, la Cité des Aveugles n'est pas très accueillante. Autrefois ghetto, encerclé par un mur, le quartier est aujourd'hui traversé par une route nationale qui part vers l'Azerbaïdjan. Mais comme l'explique Léla Vepradze, une aveugle qui chante dans le métro pour gagner sa vie, tout y est fait pour ses habitants.
Vous voyez que la bordure du trottoir s'interrompt. C'est le signe pour l'aveugle qui se guide avec sa canne que c'est l'entrée d'un immeuble. Et ici, par exemple, il peut compter le nombre d'entrées qui restent avant la sienne. Il y a d'autres repères, comme la grille de l'école ou le grand vide pour le centre culturel.
En fait, à l'époque soviétique, les aveugles étaient loin d'être des marginaux. Bien avant celui de Berlin, le mur qui les entourait est tombé en 1969. Et jusqu'en 1990, ils avaient un statut de privilégié. Ceux qui travaillaient dans les usines touchaient une pension d'invalidité en plus de leur salaire. Autrefois assistés, ils étaient devenus les bienfaiteurs de leur famille. Léla, aujourd'hui, vit avec sa sœur, son neveu, ses deux filles et sa mère dans le même appartement. La grand-mère, Eteri, est aussi aveugle, comme la moitié de la famille. Elle se souvient de ce temps privilégié.
On était riches. Si tu étais venu chez nous à l'époque, tu n'aurais jamais pu deviner que tu étais dans une famille d'invalides. Dans notre appartement, on avait tout ce qu'il fallait avec de beaux meubles. On vivait beaucoup mieux que les autres grâce à notre double salaire. Et maintenant, je ne veux même pas en parler.
Comme partout dans le pays, le chômage massif qui a suivi la chute de l'URSS a rattrapé le quartier. Immeubles délabrés, usines abandonnées et les voitures qui passent en trombe sans jamais s'arrêter, la cité des aveugles ressemble de nouveau au ghetto qu'elle n'était plus. Des 400 non-voyants qui travaillaient dans le complexe industriel Merchouba, seuls 7 sont encore employés aujourd'hui. Une quarantaine travaillent dans le bureau local de l'Union des aveugles, dont Rezo Maïsouradze est le président. Il explique ce qui reste de l'époque où les usines de Merchouba employaient le cinquième des aveugles du pays.
Le premier atelier date de 1926. On y construisait des brosses et des balais. À l'institut spécialisé, c'était la première chose qu'on apprenait. Nos ateliers étaient approvisionnés depuis la Chine, d'où on importait les matières premières. Aujourd'hui, c'est le seul qui fonctionne encore, car les autres ont épuisé leur stock. Eux travaillent toujours sur les matières de l'époque soviétique, mais ils ne vont pas tarder à fermer aussi.
Aujourd'hui, l'Union des aveugles est très animée, car une organisation américaine de charité, financée par l'Église des Mormons, vient distribuer des radiateurs à gaz à quelques familles de la cité. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir du chauffage reçoivent un colis de survie avec du savon, des serviettes et du dentifrice. C'est le quotidien des aveugles qui vivent de la charité et de la mendicité, comme toutes les populations fragiles en Géorgie.
Le chômeur qui n'a pas de revenus, qu'il soit aveugle ou non, est dans la misère. Nous sommes dans la misère comme les autres.
Mais pour les aveugles, la situation est très loin de s'améliorer. Depuis le 1er janvier, comme les autres invalides ou les retraités, ils ont perdu leurs avantages sociaux. Fini la sécurité sociale, les transports gratuits, et fini aussi l'électricité et le gaz aux frais de la mairie. Maintenant, ils doivent se contenter de leur pension d'invalidité, environ 18 euros par mois, sauf en cas d'extrême pauvreté. Par rapport aux autres aveugles, Léla a tout de même un avantage. Elle y voit assez bien pour se déplacer sans canne blanche, ce qui lui permet de se rendre plus facilement en ville pour chanter et quêter dans le métro. Mais elle voudrait un meilleur avenir pour sa fille Nato, qui chante aussi, et rêve de faire la même carrière que son idole, Edith Piaf.
En Tchécoslovaquie, naturalisé britannique, le dramaturge Tom Stoppard vient de renouer avec la République tchèque, où il présente en ce moment sa nouvelle pièce, portrait signé Christine Dupré.
Tom Stoppard, né Tomáš Trausler en Moravie, a quelque chose d'un faux jumeau de Václav Havel. L'éclectisme littéraire, la passion pour le langage, l'engagement aussi, même s'il n'a pas, lui, fait de carrière politique. En 1938, ses parents fuient l'invasion nazie de la Tchécoslovaquie et se réfugient en Grande-Bretagne. C'est là que, dans les années 60, Tom deviendra critique littéraire avant d'écrire sa première pièce, Une marche sur l'eau. C'est le début d'une carrière à succès, roman, nouvelle, essai, création théâtrale, scénario pour le petit et le grand écran. On pense en particulier au film Brazil de Terry Gilliam. Mais Tom Stoppard n'oublie pas l'origine. Dans les années 70 et 80, il milite dans plusieurs organisations pour défendre les droits des écrivains emprisonnés dans les pays d'Europe de l'Est. Il vient à Prague rencontrer Havel et écrit une pièce sur le syndicat Solidarité en Pologne. Même son style, fait d'interrogations éthiques et philosophiques, matinée d'humour et d'absurde, renvoie au pays d'où il vient. Cette République tchèque, Tom Stoppard l'a retrouvée récemment pour la première de Rock and Roll, une pièce consacrée à la vie quotidienne dans les années 60 et 70 du côté de Prague et à l'influence du rock occidental ou local sur les opposants au régime communiste. Vraie place de l'intellectuel à l'intérieur ou à l'extérieur du système, divergence entre Européens de l'Ouest et de l'Est, rapprochés toutefois par la musique, la pièce a reçu un accueil mitigé. Comme si les Tchèques reprochaient à l'auteur de parler d'eux sans avoir connu leur expérience, ou comme si Rock and Roll ressemblait trop à une pièce de Václav Havel.
Il est l'un des compositeurs et interprètes grecs du moment, Pandelis Thalassinos. On le retrouve avec ce titre, Ta Smyrneika Tragoudia, les chansons de Smyrne.
Το καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη φαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς σταματάει ο νους του
σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο. Σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο. Και βγήκες μεθυσμένο. Μας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα σμυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ.
D'Europe, Laurent Berthaud.
La Moldavie est une destination peu courante pour les touristes européens, un pays que le français Fabrice Dubessé a découvert après de nombreuses visites dans le pays voisin, la Roumanie. La République de Moldova est très proche culturellement et linguistiquement de la Roumanie, pays dont il est séparé toutefois aujourd'hui par la frontière extérieure de l'Union européenne. Fabrice Dubessé avec Frédéric Lebel.
Lorsqu'on leur dit « Ah, vous parlez roumain », non, non, on parle le moldave. Mais bon, en fait, c'est exactement la même langue. Et historiquement, ils ont la même histoire, la même culture, etc. Donc, après 89, après la chute de Ceausescu, les frontières, en fait, ont été ouvertes. Et les Moldaves pouvaient librement venir en Roumanie, etc. Puisque beaucoup, en fait, avaient de la famille de l'autre côté de la frontière. Progressivement, en fait, le gouvernement roumain a durci les règles. Et depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, il faut carrément un visa, en fait. Ce qui pose un grave problème à beaucoup de Moldaves, en fait, qui venaient travailler carrément de l'autre côté de la frontière, puisque le niveau de vie en Roumanie est deux fois plus élevé. Et vous aviez également un trafic de part et d'autre de la frontière, qui maintenant est réduit à la peau de chagrin, en fait, à cause de cela, en fait.
Ils en disent quoi, justement, les Moldaves, de ce nouveau visa, de cette nouvelle frontière aujourd'hui avec la Roumanie?
Ben, la plupart ont du mal à comprendre cela, puisque pour eux, les Roumains, c'est un peu leurs frères. Donc, ils ont un peu de mal à encaisser cela. Donc, pour eux, la solution, c'est d'adhérer ensuite à l'Union européenne.
Mais le chemin sera long.
Ah oui, je pense qu'il sera long, puisque maintenant, on parle plutôt des pays des Balkans ou même de la Turquie, alors que l'adhésion de la Moldavie est beaucoup plus évidente que la Turquie, il me semble.
Et vous avez rencontré beaucoup de Moldaves qui ont encore de la famille en Roumanie et qui le voient de moins en moins?
Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, oui, qui ont de la famille de l'autre côté de la frontière et du fleuve, en fait, puisqu'il y a un fleuve qui sépare la Moldavie et la Roumanie qui s'appelle le Prout. Et donc, j'ai rencontré une famille qui n'avait pas vu ses cousins, en fait, depuis plus d'un an. À cause du coût du visa. Il y a également un certain nombre de Moldaves qui ont réussi à avoir la double nationalité avant que les règles se durcissent. Donc pour eux, la situation n'a pas changé. Enfin, c'est assez simple.
Françoise Grelot réalisait Accent d'Europe. Olivier Duval assurait la mise en onde. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur internet, rfi.fr, page émission.